non seulement en fait j'ai galéré à monter en régime ma production, mais maintenant en fait je vais devoir passer une semaine à tout nettoyer et tout recommencer, que je vais devoir dire à mes clients que je vais pas pouvoir les livrer, et qu'en plus t'as l'inquiétude, hein. T'as une inquiétude que t'arrives pas tout à fait à raisonner sur est-ce qu'il y a pas des limites structurelles en fait à ce que t'es en train de faire. C'est des moments qui sont assez durs. Et je pense que ce qui est important aussi à ce moment-là, c'est de déployer, enfin, de faire face très concrètement à tes problèmes d'aujourd'hui. Déployer les ressources et les énergies pour pouvoir les résoudre. Dire ok, comment est-ce qu'on va faire ? On va mettre des capteurs partout. On va créer une équipe de performance opérationnelle qui data scientists qui analyse les données, qui les explique. On va être très rationnel et très factuel. Et en même temps, de continuer à avancer avec l'hypothèse que tu vas résoudre tous tes problèmes. Parce qu'en fait, si tu t'arrêtes, quelque part, tu perds le momentum, tu perds le dynamisme.
Bienvenue dans La Galère, le podcast qui raconte comment les entrepreneurs des plus belles startups se sont débrouillés pendant les tout premiers mois de leur aventure. On parle des galères des débuts, de la débrouille, des petites astuces pour convaincre les premiers clients et de tous ces petits détails qui font la différence entre le succès et l'échec d'une startup. Je suis David Baruchel, cofondateur de Start the Fuck Up, le studio d'innovation qui aide les entrepreneurs et les grands groupes à lancer des startups. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.stfu.pro. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner à La Galère pour ne pas rater la sortie du prochain épisode et à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast afin d'aider d'autres personnes à découvrir l'émission. Bonne écoute!
Juste un petit mot avant cet épisode. On sait que beaucoup d'entre vous sont des entrepreneurs qui démarrent. Vous galérez, vous hésitez, c'est normal. C'est difficile de commencer un projet. Start the Fuck Up vous accompagne avec Flash, une accélération sur mesure en 5 semaines avec un coach entrepreneur dédié à votre projet. On rentrera ensemble dans les détails de l'exploration marché, la stratégie early stage, la conception produit, le développement tech, l'acquisition client, la vente et le pitch. Si vous avez une idée à lancer, que vous soyez un entrepreneur ou un chef de projet de grand groupe, rendez-vous sur stfu.pro/flash, F-L-A-S-H. À très vite et bonne écoute.
Bonjour, bienvenue dans La Galère. Je suis David Baruchel, cofondateur de Start the Fuck Up, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Clément Ray, le cofondateur d'InnovaFeed, une entreprise qui fait de l'élevage d'insectes, mais pas pour nous nourrir nous, pour nourrir plutôt l'industrie agroalimentaire et en particulier l'élevage de poissons. Salut Clément.
Salut David.
Merci de me recevoir, vu qu'on est dans les bureaux d'InnovaFeed à côté de Gare du Nord.
Bah écoute, c'est un plaisir.
Avec une tortue dans un aquarium à côté de nous.
Ashley.
Ashley, voilà. La tortue.
Exactement.
Super. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu InnovaFeed, s'il te plaît ?
Sans problème. Écoute, je suis Clément Ray, je suis cofondateur d'InnovaFeed. Qu'est-ce que fait InnovaFeed ? Donc effectivement, on élève des insectes pour nourrir des animaux, comme des poissons, des volailles. Et quelque part, quelle est l'ambition d'InnovaFeed ? C'est de faire de l'insecte un maillon essentiel du système agroalimentaire pour le rendre plus circulaire, plus naturel et in fine plus durable. Si on prend un peu de recul, ce que l'on fait, c'est réintroduire l'insecte en lui donnant le même rôle dans le système alimentaire que celui qu'il a dans la nature. Dans la nature, le rôle de l'insecte, c'est de recycler des déchets, de la biomasse en décomposition, la transformer en fait en sol, et de réinjecter en se faisant des nutriments dans la chaîne alimentaire pour nourrir des petits mammifères, des petits oiseaux, des poissons. C'est exactement ce qu'on fait chez InnovaFeed. On recycle des coproduits, des déchets des agro-industries avec nos insectes et on réutilise les nutriments qu'on a récupérés pour nourrir des poissons et des animaux.
Ouais, c'est tout bête et génial à la fois, quoi.
C'est beaucoup plus simple à dire qu'à mettre en œuvre en pratique.
Ouais.
Parce que pour le faire, en fait, pour avoir un véritable impact systémique, il faut que tu atteignes une certaine compétitivité, une certaine échelle. Et donc, du coup, tu as une technologie vraiment extrêmement pointue qui doit être développée. Une technologie pour comprendre comment fonctionnent ces petites bébêtes, comment elles peuvent se reproduire, comment elles grandissent, comment fonctionne leur biologie, et après comment industrialiser ces technologies, comment le faire à très grande échelle, comment le faire de façon automatique. Aujourd'hui, en fait, on est en train de démarrer notre seconde usine, et il faut comprendre que l'échelle qu'on atteint est assez, assez importante. Hein. Je te donne juste un chiffre. On collecte 20 000 œufs d'insectes par seconde dans cette usine.
Par seconde ?
20 000 œufs d'insectes par seconde.
C'est quoi comme insecte ?
C'est un diptère, c'est une mouche qui s'appelle Hermesia lucens, qui a des propriétés nutritionnelles très intéressantes dans l'élevage des poissons. C'est la bonne protéine, c'est des huiles intéressantes, qui permet en fait d'avoir également des élevages de meilleure qualité. Des poissons qui grandissent mieux, qui sont en meilleure santé, qui sont moins sensibles en fait à certaines maladies, qui ont meilleur goût aussi parfois.
Tu peux tester ?
Bien sûr, non, bien sûr. Non, on fait les choses de façon très scientifique. Hein. C'est des industries en fait qui sont extrêmement sophistiquées. La nutrition animale, hein. On comprend exactement quels sont les besoins des animaux et chaque innovation doit être démontrée de façon très très scientifique. Donc, il y a les questions de performance, de croissance des poissons. Il y a les questions de composition des poissons. Il y a des questions de résistance aux maladies et une question de bien-être animal. Et tout ça doit être objectivé. Et ça fait partie en fait du développement du modèle. Au-delà de la technologie qu'on met en œuvre, c'est de démontrer la valeur de nos produits dans les industries d'élevage.
Ok, très clair. Donc en effet, il y a une énorme partie tech, hein. C'est pas juste de l'élevage d'insectes, c'est pour cet élevage d'insectes, il y a énormément en fait, de tech à développer. Vous avez commencé ça il y a combien de temps ?
On a commencé il y a 4 ans.
Ouais.
On a commencé il y a 4 ans.
Et vous êtes combien aujourd'hui là ?
Aujourd'hui, on a un peu plus de 100 chez Novafil. Wow. On a construit 2 usines. Notre deuxième usine, c'est un investissement d'un peu plus de 50 millions d'euros. C'est 110 jobs industriels, donc sur place. Elle est en Picardie. Et 15 000 tonnes de protéines. 15 000 tonnes de protéines, ça permet en fait d'éviter la pêche de 55 000 tonnes de poissons. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la protéine que l'on génère, elle vient remplacer ce qu'on appelle des farines de poissons. Donc, c'est des petits poissons pêchés en mer, en Amérique du Sud et en Afrique, qui sont actuellement utilisés pour nourrir les saumons. C'est cette protéine qu'on vient remplacer. Et les 15 000 tonnes de protéines qu'on produit permet d'économiser 55 000 tonnes de pêche. Voilà.
Et du coup, c'est qui vos clients directs aujourd'hui et tu nourris des poissons de quel pays ?
Alors, la chaîne de valeur est la suivante. Nos clients sont des gens qui font des granulés pour poissons. C'est des gens qui sont peu connus, des Cargill, des Skretting, des Biomar, mais qui sont des assez grands groupes qui font plusieurs milliards de chiffres d'affaires. Ces personnes, ces acteurs, vendent des granulés à des éleveurs de poissons, des éleveurs de truites en France, des éleveurs de crevettes, des éleveurs de saumon en Norvège ou en Écosse. Et ensuite, ce sont des distributeurs de poissons. Donc, nos clients directs sont ces fabricants d'aliments. En revanche, on collabore avec l'ensemble de la chaîne de valeur. On a une collaboration assez forte avec des éleveurs. On a une collaboration assez forte même avec des distributeurs de poissons, avec des gens comme Auchan, par exemple, avec qui on a commercialisé et marketé, tel quel, des truites nourries avec des insectes. Et le fait de collaborer avec tous les acteurs de la chaîne de valeur, ça permet d'une part d'aller beaucoup plus vite dans les innovations, d'accélérer les changements, parce qu'il y a un appel d'air par le bout de la chaîne de valeur, par le client final, sur toute la chaîne. Donc c'est un sentiment d'urgence en fait de la part de nos clients directs d'adopter nos produits. Et il y a un deuxième avantage, c'est que ça permet de bien répartir la valeur ajoutée que génèrent nos produits, bien la répartir au niveau en fait des fabricants d'aliments, des pisciculteurs et des distributeurs, et pas être uniquement dans une logique en fait de pure commodité avec tes clients directs.
Ouais, c'est ça en fait, c'est que tu essaies de bien comprendre les différents problèmes et les différentes propositions de valeur que tu peux apporter dans toute la chaîne et à tous tes clients indirects en fait, pour faire le meilleur produit pour tout le monde et pas juste pour ton premier client direct, c'est ça ?
Ouais, absolument. Absolument. Okay.
C'est un petit peu la stratégie, ce que tu dis sur aussi que discuter avec le client final, ça me fait un peu penser à la stratégie d'Intel qui avait beaucoup marketé le côté Intel Inside sur ses ordinateurs pour que le consommateur final finalement dise « Ah bah moi je veux acheter du Intel Inside et pas le concurrent », et ce qui a poussé leur déploiement dans tous les ordinateurs.
Quoi. C'est exactement ça. On a créé un label qui est nourri à l'insecte, qu'on utilise sur le poisson et sur la volaille, et les poissons vendus aux consommateurs, les volailles vendues aux consommateurs sont vendues avec ce label qui est aujourd'hui en fait avec un peu de pédagogie extrêmement apprécié par le consommateur qui comprend en fait d'une part le côté naturel du fait qu'un poisson, une truite, un saumon mangent des insectes parce que c'est ça qui fait dans la nature et également l'impact environnemental positif parce que ils ont qui s'intéresse de plus en plus à la profondeur de chaîne de valeur et les impacts qu'on a traités en amont. Il comprend en fait que lorsqu'il mange du saumon, ça peut générer la déforestation en Amazonie. Ça peut vider les océans en Amérique du Sud. Ça, c'était pas le cas avant. Et il y a une demande, je pense, une tendance de marché très très forte.
Je pense que les gens sont aussi contents de voir que tu essaies pas de leur faire manger des insectes directement.
C'est possible. Hein. Enfin, tout comme moi, je préfère manger un saumon nourri à un insecte qu'un insecte directement encore.
Et tu vas nous expliquer un petit peu comment ça a démarré, mais juste d'un point de vue global, comment tu identifiais le fait qu'il n'y avait pas encore des gens qui utilisaient ce système alors que c'est déjà le système présent dans la nature? Pourquoi les poissons n'étaient pas nourris avec des insectes jusque-là?
Je pense que chaque chose arrive en son temps. On est en train un peu de rentrer dans une nouvelle ère. On se rend compte qu'une croissance basée uniquement sur des systèmes linéaires d'exploitation des ressources n'est plus complètement possible. Et si on veut trouver de la croissance, il faut mettre en place des stratégies plus circulaires. Et ça, je pense qu'il y avait moins cette urgence il y a 10 ou 15 ans qu'aujourd'hui. Il y a également en fait des tendances fortes de marché qui font que l'aquaculture se développe énormément. Il y a 20 ans, un poisson sur 5 consommé dans le monde était issu de l'aquaculture. Aujourd'hui, c'est un poisson sur 2. Et donc ça crée en fait des besoins complémentaires pour pouvoir alimenter ces poissons.
Alors excuse-moi, quand tu dis aquaculture et un poisson sur 5, c'est-à-dire que les 4/5e, ils s'étaient pêchés, d'accord.
Ouais. Ils s'étaient pêchés. Aujourd'hui, en fait, c'est plus qu'un sur deux qui est pêché. Donc, très, très forte croissance de l'aquaculture. Tous les poissons supplémentaires qui sont consommés sont issus de l'aquaculture depuis 20 ans. Et la consommation de poissons augmente de façon très forte. Donc, il y a un besoin de marché fort. Et in fine, en fait, ce qui a permis complètement l'explosion de notre industrie, c'est une ouverture réglementaire qui a eu lieu en 2017. Mi-2017, en Europe, aux États-Unis, la protéine d'insecte a été autorisée pour nourrir des poissons d'élevage. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que tout le potentiel de notre technologie, de notre industrie s'est débloqué et qu'elle a pu véritablement prendre son envol.
D'accord. 2017, et tu nous as dit que vous étiez lancé il y a 4 ans, donc en fait, vous étiez en avance sur cette régulation quand vous avez démarré.
On avait un petit peu anticipé.
Ouais.
Je pense le strict minimum. On avait conscience de cette ouverture à venir qui n'était pas encore actée mais qui était probable les 3-4 ans à venir, et également conscience que si on ne se lançait pas maintenant, bah quelque part on raterait la fenêtre d'opportunité. On était assez pressé au départ parce qu'on savait que cette fenêtre d'opportunité apparaîtrait et qu'il ne fallait pas la rater.
Alors du coup on va revenir sur le démarrage, et surtout là tu nous parles de l'élevage de poissons comme si tu avais grandi dedans, presque. Mais j'imagine que ça n'a pas forcément commencé comme ça, ou peut-être que si. Est-ce que tu peux nous dire comment ça a commencé pour toi, l'entrepreneuriat, où tu étais avant, et pourquoi tu as décidé de te lancer, et en particulier sur InnovaFeed?
J'étais en conseil. En stratégie, je travaillais chez McKinsey. Ça fait 5-6 ans que je travaillais chez McKinsey, et je m'étais rappelé que j'étais venu là pour apprendre, et pas pour être consultant. Et que c'était certainement le moment d'aller utiliser ailleurs mon énergie, ce que j'avais appris à faire. Je pense que j'étais fondamentalement à la recherche d'un projet dont je pouvais être fier, qui aurait du sens. Et in fine, je pense que ce projet a été, on l'a choisi plutôt que d'autres projets, c'était pour son impact environnemental d'une part, je pense qu'on comprend bien, mais également sociétal. Ce qui était important pour nous, c'était pas de faire une boîte de tech qui je pense a comme danger de polariser la société. Quelque part, il y a très peu d'emplois dans la tech, crée énormément de valeur ajoutée, et je pense qu'il y a un vrai danger quand on voit ce qui se passe dans la Silicon Valley par exemple, où en fait il y a une concentration de richesse, une concentration de pouvoir qui est liée à la tech. Donc ce qu'on voulait, c'est également avoir un impact sociétal local à travers une technologie qui se décline en industrie, en emploi dans les territoires, et c'était aussi un point important. Donc je pense que c'était ces deux facteurs d'impact sociétal et environnemental qui nous a fait en fait partir dans ce projet.
Alors ça, c'est comment vous avez choisi celui-là, mais comment vous avez découvert ce problème ou cette opportunité? C'est parce que vous avez commencé à faire, alors je dis vous d'ailleurs, je ne sais pas qui est vous, mais c'est parce que vous avez commencé à faire des missions de conseil sur ce sujet? C'est...
Ça part de beaucoup plus loin, et je pense que même de beaucoup plus superficiel. Ça part de la question de se dire qu'est-ce qui n'existe pas et qui existera dans 20 ans? Ça se passe autour d'un verre où tu te dis, mais qu'est-ce qui doit être construit dans les 20 prochaines années? Et tu dis, mais par exemple, les experts, la FAO, disent que l'insecte fera partie du système alimentaire de demain. Aujourd'hui, tu vois, autour de toi, c'est balbutiant. Dans un restaurant, tu manges pas d'insectes. T'as pas de poisson nourri aux insectes. Et de ce hiatus, de cet écart entre ce que les experts disent du système alimentaire dans 20 ans et de ce qui est la réalité d'aujourd'hui, tu dis qu'il y a certainement tout un pan à construire. Et je pense que c'est ça qui nous a aiguillonné, qui nous a interpellé, c'est-à-dire comblons cet écart et regardons si véritablement il y a un modèle intelligent à construire pour combler cet écart.
Ok. Et du coup le nous c'est qui? C'est qui était autour de ce verre?
j'étais avec Aude, qui était une des cofondatrices d'Innovafeed, qui était une collègue chez McKinsey également. Et assez vite, après, on a réuni une petite équipe. On a lancé le projet à 4 avec Aude Guo, Bastien Ogeri et Guillaume Gras.
D'accord. Et du coup, c'était quoi un peu les différents profils ou répartition des rôles? Ou il y en avait qui connaissaient déjà cette industrie ou pas du tout?
Non, absolument pas.
Wow.
Aude est très similaire à moi, c'est une ingénieure qui a bossé 5-6 ans au conseil, qui était assez intéressée par les sujets opérationnels, industriels. Bastien est un copain de promo, passionné par les sujets d'alimentation, qui avait travaillé un peu à l'AFD, qui avait travaillé en banque d'affaires et qui travaillait dans un incubateur de start-up à ce moment-là.
D'accord.
Et Guillaume, qui était également un copain de promo et qui, lui, en fait, était attiré par, plus par les aspects biologiques, scientifiques, technologiques, passionné par la nature, passionné par les oiseaux, et qui, à ce moment-là, travaillait chez Sanofi, mais pas d'entomologiste, pas d'expert du domaine, pas d'expert de la nutrition animale. Je pense qu'on avait fondamentalement, et je pense qu'on a gardé un peu cet état d'esprit. On pense que ce qui est premier, c'est l'état d'esprit, la structure et la rigueur que tu es capable de mettre en œuvre pour pouvoir délivrer en fait un projet. Que beaucoup de choses s'apprennent, que si tu as besoin en fait de connaissances très précises, tu les recrutes ou tu les apprends. Et qu'il y a peu de choses que tu peux pas apprendre en fait.
Ouais. Ok. C'est un peu Elon Musk qui se lance en disant finalement les fusées c'est peut-être pas si compliqué que ça.
Ouais, je pense que c'est peut-être même l'inverse, c'est-à-dire finalement l'insecte c'est peut-être pas c'est certainement très simple et en fait c'est un peu plus compliqué que ce qu'on imaginait. Je pense qu'il y a beaucoup d'inconscience aussi quand tu te lances dans un projet. Je pense qu'on n'avait pas du tout conscience qu'il faudrait atteindre les échelles qu'on entend atteindre, le niveau de développement technologique et le niveau de complexité. Je pense que tu l'intuites pas tout à fait.
Ouais, c'est la force de la naïveté, quoi.
Absolument. Mais c'est indispensable d'être complètement naïf et d'être pas du tout lucide sur les galères que tu as devant toi. Autrement, tu t'en sens jamais, quoi. Mais...
Et donc, là, vous décidez de faire ce switch, de partir de chez Mac pour vous lancer donc directement sur Innovafeed.
Absolument.
C'est quoi le premier truc que tu fais?
Premier truc que tu fais, c'est définir la date à laquelle on va se retrouver tous les quatre, hein, le 15 mai 2016.
Anniversaire.
Bien sûr. Deuxième chose que tu fais, c'est que tu vas acheter quatre tables blanches comme celles sur lesquelles on est assises, quatre chaises, premier jour, chez Ikea, et tu montes, tu t'installes tes bureaux dans dans l'appartement que tu as loué.
Ok.
Et après, je pense que trois choses les deux premiers mois. La première chose, c'est qu'on a mis les mains dans le cambouis dès le début. Deuxième chose, c'est qu'on a essayé de répondre de façon extrêmement structurée aux grandes questions stratégiques qu'on n'avait pas encore résolues, très analytiques. Et la troisième chose, c'est qu'on a essayé d'aller chercher des alliés d'aller comprendre qui on avait besoin, qui est-ce qui pouvait nous aider et qui est-ce qui avait des intérêts alignés avec nous pour construire en fait ce projet. Si je développe un peu,
ouais, tout à fait, je veux bien.
C'est trois points. Mettre les mains dans le cambouis, c'est quoi? C'est tout simplement, même si tu es encore dans un petit appartement, si tu es encore dans ton modèle Excel, c'est commencer à élever des insectes dans ta salle de bain. complètement. Et donc, on a fait le tour des animaleries du nord de la France pour trouver des Telebrio molitor, des Hermisia lucens, des teignes de ruche, plein d'insectes qu'on connaissait pas, et essayer de les élever. Ça revient à aller au Monoprix en bas de chez toi, d'écraser des olives, de te rendre compte que tes insectes ne mangent pas du tout ça, de comprendre un peu comment ça marche, essayer de faire le lien entre les bibliographies. Ça a l'air un peu absurde en fait, mais je pense que fondamentalement ce qu'on voulait faire dès le début, c'était d'avoir une approche très main dans le cambouis, pas dans nos tours d'ivoire, et de se confronter aux véritables problèmes techniques qui allaient se poser. C'était un peu absurde, les insectes s'échappaient partout dans la salle de bain, incapables de les faire se reproduire, découvert un jour des œufs de mouches, en fait c'était des œufs de mouches communes qui avaient pondu en fait, là où on espérait que nos insectes pondent. Mais je pense que c'était à l'esprit de se lancer, de se dire ok, c'est à toute petite échelle pour le moment, mais ça a au moins le mérite, ça nous apprend quelque chose de complémentaire à ce que nous apprend nos modèles, était très important. Notre exemple, c'est je me baladais, c'est qu'une des grandes questions stratégiques à laquelle il fallait répondre, c'était quelles étaient les matières qu'on allait utiliser pour nourrir les insectes. Donc je me baladais dans les régions des Hauts-de-France, dans ma petite C1, pour rencontrer les acteurs qui faisaient du traitement de déchets, qui faisaient du recyclage de coproduits agro-industriels. Je venais les rencontrer, je leur disais on a un projet d'élevage d'insectes, on est très avancé, et ils me voyaient en fait après faire le tour de leur site avec une pelle et un sac plastique pour pouvoir prendre des échantillons des différents produits et les ramener en fait pour faire des premiers essais. Donc c'est véritablement en fait faire des choses très concrètes et se lancer, et on a gardé tout le temps cet état d'esprit au cours du projet, et je pense que ça nous a permis d'avancer plus vite. Deuxième chose, sur le cadrage stratégique, je pense que c'est très important. On a été relativement rapide dans notre croissance, mais c'est aussi parce qu'on a fait peu de pivots. On a essayé d'avoir, en fait, dès le début, le bon framing stratégique. Quel marché t'adresse ? Quel insecte t'élèves ? Quelle taille tu vises ? Et quelle matière première tu utilises pour les élever ? Là-dessus, en fait, c'est la modélisation. On a fait des modèles d'Excel extrêmement complexes. Je me souviens des nuits qu'on a passées entières en fait à modéliser l'ensemble des coûts dans les 15 options, 3 sous-options, et de se dire ok, c'est Hermesia et Lucens sur un modèle supérieur à 10 000 tonnes par an en nourrissant avec des coproduits agro-industriels issus de la midonnerie de blé, et le faire en fait pour l'aquaculture, qui permet d'avoir le modèle où tu as le plus d'impact, qui est le plus performant, et aujourd'hui ces quatre dimensions, quatre points, on n'a pas bougé pour le moment. Et ça a permis à toute l'équipe après de délivrer sur ces aspects-là.
Et comment tu étais capable de remplir ton Excel ? Parce que déjà, identifier cette matrice d'opportunités, en fait, hein, c'est entre le quels insectes, quel type d'industrie, quel endroit dans la chaîne de valeur, ça demande une certaine maturité sur la compréhension du système. Enfin, moi, tu me demandes aujourd'hui là, de me mettre devant un Excel et de faire les différentes pistes stratégiques. Je pense que je peux passer 2 semaines à tourner en rond sans accoucher de quelque chose de concret. Donc, comment vous avez fait, vous, pour faire ce planning stratégique et avoir la compréhension de ce marché ?
Je pense qu'avant tout, il faut être à l'aise avec le fait que tu vas atterrir avec la meilleure réponse avec laquelle tu peux atterrir à ce stade du projet. Et qu'il faut, être à l'aise avec le fait que tu dois faire des hypothèses très fortes. Après, ce qui est important, c'est de comprendre quels sont les 2-3 paramètres qui ont le plus d'impact, qui sont le plus dimensionnants, et passer plus de temps sur cela et un peu laisser de côté les choses qui sont secondaires où tu prends des hypothèses plus grossières. Et après, c'est ces 2-3 paramètres qu'il faut que tu craques. Tu parles à plein de gens. T'essaies de faire des raccourcis. Tu prends par exemple un point très concret, quel est le taux de reproduction, quel est le nombre de mouches a besoin pour obtenir 1 kg d'œufs d'insectes. Là-dessus, en fait, on a été allé visiter pas mal de laboratoires et qui faisaient de la reproduction d'insectes, d'autres espèces, de la mouche du fruit par exemple, il y en a à Vienne en Autriche, il y en a en Andalousie, il y en a en Équateur. On allait parler en fait avec les gens, on allait les voir, comprendre comment ils faisaient.
En Équateur?
Ouais. Comprendre leurs chiffres, les récupérer et essayer de les extrapoler par rapport à notre propre insecte. Et c'est quelques paramètres assez importants, pareil pour les indices de consommation, c'est-à-dire quelle quantité de matière première tu as besoin pour produire une tonne de larves. C'est des points sur lesquels on a essayé de prendre les meilleurs comparables sur lesquels on a passé pas mal de temps pour avoir les bons chiffres.
Voilà, donc en fait, c'est plus qu'un tableau Excel, en fait. C'est une vraie phase d'exploration de terrain où en fait tu vas à la pêche aux informations partout où tu peux les trouver.
Ouais, mais tu commences par ton tableau Excel. Parce qu'en fait, sur ton tableau Excel, tu mets au départ sur le nombre d'insectes que tu vas obtenir dans le nombre d'œufs que tu vas obtenir par cage de mouche, tu mets un chiffre. Et ce chiffre ne te satisfait pas parce que tu sais qu'il est beaucoup trop sorti de nulle part. Hein. Et après, tu sais que ce chiffre-là qui a le plus d'impact sur ton résultat final, donc c'est celui-là qu'il faut que tu t'en suffises. Donc tu ne commences pas par passer 6 mois en fait, sur le terrain à chercher en fait, plein d'informations sans hiérarchiser en fait, l'importance de ces différentes informations. Tu commences par modéliser, identifier les paramètres clés et tu passes ton temps dans les jours qui viennent sur les 2-3 paramètres dont tu as besoin et qui ont le plus d'impact.
Ok, donc c'est un peu ton guide en fait.
C'est complètement ton guide.
Ça revient à cartographier l'ensemble de ton modèle, voir où sont les paramètres les plus forts, les hypothèses les plus fortes aussi et celles qui ont le plus gros impact. Et une fois que tu as finalement cette trame, bah là ça te permet de guider ton exploration terrain pour savoir qu'est-ce que tu dois aller chercher.
Exactement. C'est te permet de savoir ce que tu vas chercher, ce que tu dois chercher et ce que tu peux te permettre en fait de ne pas aller chercher.
Ok. Super. Donc ça c'était le deuxième point, c'était la partie vraiment stratégique et modélisation. Et ton troisième point?
Troisième point, c'est que tu te rends compte en fait que tu vas pas sortir de ton petit appartement avec tes insectes dans ta salle de bain tout seul. Assez vite, tu as besoin en fait de recruter une équipe de R&D, t'installer dans des labos de R&D, demain de construire un pilote, puis après des usines, tu as besoin d'alliés. Des alliés, c'est des gens qui vont te permettre de comprendre, de faire évoluer la réglementation. C'est des clients. Et c'est aussi en fait des financiers. Et en fait, même dès le début, l'argent a le nerf de la guerre. Si tu veux sortir vite de ton avion pour objectif de passer moins de 3 mois en fait, dans cette phase où on était en fait en appartement. Et en fait, on y a passé 2 mois et demi parce que le 1er août, on s'installait dans des laboratoires de 500 mètres carrés en fait à Genopole, à Évry, qui était un centre de référence dans la R&D. Et comment on a pu faire ça? C'est parce qu'on a pu, en 2 mois, sécuriser le 500 000 de fonds qui nous permettent de changer d'échelle.
Alors attends, juste pour revenir. La réglementation n'était pas encore de votre côté. Ça faisait même pas 2 mois que vous étiez lancé. Vous aviez fait un gros Excel et élevé des insectes dans votre baignoire et vous avez réussi à lever 500 000.
On n'a pas levé 500 000, on a réuni 500 000 d'euros de financement.
Okay. Comment?
Il y a eu quelques obligations convertibles qui ont été émises. Mais il y a eu également en fait, pas mal d'aides publiques dès le début. Le 15 juin, par exemple, on gagnait un appel à projet. 200 000 euros de subvention, donc un mois après avoir créé Innovafeed, auprès de France Agrimaire, qui est une entité du ministère de l'Agriculture, pour pouvoir mettre en place nos démonstrateurs. Et donc, je pense que cette capacité, par la clarté de ton positionnement stratégique, la clarté du plan que tu veux mettre en œuvre, permet de convaincre beaucoup de gens, assez tôt dans un projet, de te suivre et t'apporter des financements qui vont te permettre de le mettre en œuvre. Donc c'était ce soir-là, on a débouché le champagne parce qu'on s'est rendu compte en fait que un mois après avoir avoir véritablement démarré, on avait déjà les moyens de passer à la phase suivante, qui était notre objectif qu'on s'était fixé. Et donc du coup, le 1er août 2016,
c'était quoi, pardon, le démonstrateur auquel vous deviez arriver?
C'était le fait d'avoir un élevage qui fonctionne à l'échelle de R&D.
D'accord.
Qui produisent quelques centaines de kilos de protéines d'insectes par an et qui montrent en fait la performance de nos produits dans la nutrition animale.
D'accord.
Et donc, du coup, on décide de mettre en place ce démonstrateur à Genopole. Et on s'installe le 1er août 2016. Et donc là, tu débarques dans des locaux qui sont immenses. Tu débarques, tu poses ces 3 tables Ikea au milieu de l'open space. Et tes 2 vivariums avec tes 10 mouches qui se battent en duel à l'intérieur des laboratoires. Tu vois un peu le regard des gens qui t'accueillent, qui sont un peu goguenards, hein, qui sont ces uluberlus qui viennent mettre leurs deux vivariums, leurs mouches dans ces laboratoires. Toi, tu ne reviens pas d'avoir autant de place, autant de t'es tout excité, mais tu vois en fait l'incompréhension dans le regard des autres. Et là, il y a une phase assez intéressante qui a suivi. Qui a été en fait toute une phase de R&D et de démonstration. On a à nouveau, en fait, je pense, se focaliser sur différents éléments. Tout d'abord, on a mis énormément d'importance à ce moment-là à construire la bonne équipe, dès le début. Très vite, je pense que la cinquième personne qu'on a recrutée, c'était une recruteuse. Pour pouvoir, on a mis en place un process d'entretien, de recrutement, de chasse extrêmement processé, extrêmement on va dire professionnel, parce qu'on avait la conviction que la construction de l'équipe la plus solide possible serait extrêmement importante. On a notamment en fait commencé par construire une équipe de R&D au départ. On a demandé.
C'est pareil. Comment tu sais là de quelles compétences t'as besoin, parce que même si ça fait 2 mois que vous êtes à fond sur le sujet. Vous aviez pas d'experts R&D insectes dans votre team, donc comment tu sais de quoi tu as besoin finalement, et même est-ce que tu sais comment planifier finalement tout un process de R&D qui va te permettre d'aboutir à ton démonstrateur? Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un niveau d'expertise à avoir pour savoir approcher ça qui est assez élevé.
Je suis d'accord et pas d'accord. On a parlé à beaucoup d'experts, on les a fait venir, ils ont passé 1 ou 2 semaines avec nous, mais on ne les a pas embauchés. Ce n'est pas eux qu'on a embauchés. Ceux qu'on a embauchés, c'est des gens qui avaient un très fort drive, très structuré, très organisé, qui étaient capables de mettre en place une démarche très précise, très focalisée et d'exécuter. Les experts venaient en fait alimenter, challenger, apporter du feedback, mais c'est pas ceux qui formalisaient et c'est pas ceux qui faisaient. Et c'est ça qu'on a cherché à recruter. Donc c'est des garçons et des filles qui sont extrêmement motivés, qui ont beaucoup d'énergie, qui aiment que les choses avancent et qui sont capables d'être très structurés et très organisés dans ce qu'ils mettent en œuvre. Les experts venaient juste, en fait, c'était des carburants, on venait les alimenter, on les faisait venir, ils passaient 2 semaines. On apprenait, au bout d'un moment, en fait, on avait l'impression d'avoir épuisé en fait les informations et on repartait de leur connaissance. Et je pense qu'une autre chose sur laquelle on a énormément insisté, c'est de pas tout faire à la fois. Quand tu pars dans une démarche de R&D, tu peux faire plein de choses. Tu peux étudier le spermoduc de la mouche, les sexes et les ratios de mâles et de femelles dans les cages. On a dit que vous travaillez uniquement sur 3 choses. L'indice de consommation, le taux de reproduction et la vitesse de croissance, qui étaient les 3 paramètres qui avaient un impact clé sur le modèle économique. Et chaque fois, en fait, on ramenait l'équipe sur ces 3 paramètres qu'il fallait optimiser.
Et j'imagine que si tu me dis, par exemple, pour reprendre tes exemples, le taux de reproduction, le sous-paramètre que tu m'as cité, dont j'ai déjà oublié le nom juste avant, pardon, il doit être lié à ce paramètre-là. Donc, comment tu fais pour ne pas avoir cette décorrélation de « bah tiens, j'ai besoin de mieux piloter mon taux de reproduction, du coup je vais aller plus en détail pour essayer de comprendre comment la reproduction ça fonctionne et essayer de régler le micro-détail là ?»
Donc ça tu peux.
Ouais.
Mais okay. Ça tu peux, bien sûr. Mais par contre, tu dois rattacher en fait chacun de tes travaux et développements, chacune de tes expériences, à un de ces 3 objectifs.
D'accord. Okay.
Bien sûr, tu peux pas rester de façon superficielle. Hein. Par contre, tu dis pas, tiens, c'est intéressant d'étudier le spermiduc d'Hermès et Lucène et comprendre comment il marche, parce que c'est intéressant, parce que tu sais pas comment ça marche. faut que tu partes de l'objectif d'optimiser en fait le taux de reproduction. Si par contre en fait tu as un truc que tu comprends pas sur pourquoi est-ce qu'il y a de la variabilité dans ce taux de reproduction et que tu penses que ça peut être lié au spermiduc, là tu as le droit de te focaliser. Et je pense que cette focalisation sur une limite d'objectif permet d'aller très très vite. L'autre élément qu'on a essayé de pousser à ce moment-là, c'était véritablement de confirmer le potentiel de marché. Et c'était pas évident. C'était pas évident parce que nos clients directs, les fabricants d'aliments, qui sont assez peu nombreux en fait, sont des acteurs très consolidés, n'étaient pas inintéressés par la démarche. En fait, avaient déjà été approchés par des dizaines de personnes qui avaient des idées aussi farfelues que nous, y compris dans l'industrie de l'insecte. Sans forcément que les gens délivrent derrière. Parce que c'est très compliqué en fait, de produire des quantités industrielles de protéines d'insectes. Il y a en Europe plus de 70 startups qui essaient de faire la même chose. En 2016 ou 2017, ils avaient chacun été approchés par une quinzaine de personnes qui étaient allées les rencontrer, qui leur avaient promis mont et merveille, sur lesquelles ils n'avaient pas délivré. Donc rien qu'à leur parler, pour une chose qu'ils avaient déjà écoutée 15 fois, c'était compliqué. Et donc du coup, on a un peu retourné en fait l'approche et on a décidé de partir de la base de la chaîne de valeur. Un point de feedback qu'on recevait de nos clients directs, c'est de dire c'est pas inintéressant, de toute façon la grande distribution n'en voudra jamais.
D'accord.
Allons parler à la grande distribution. On allait parler à Auchan, on a appelé un monsieur qui s'appelle Jacques le Cardinal. On lui a dit, il paraît que vous êtes contre le fait que les truites soient nourries avec des insectes. Il dit, ah bon? Mais qui vous a raconté ça? Moi, je suis pêcheur à la mouche, je n'ai marre que mes truites soient nourries avec du soja OGM, je n'ai marre que les truites soient nourries avec des farines de poisson qui dépeuplent les océans. Ça m'intéresse énormément comme idée, rencontrons-nous. Et c'est là que tout est parti. Il a essayé de comprendre, il a fait venir ses experts, il s'est dit, ça a du potentiel. Il est venu visiter nos laboratoires, il a compris la démarche, compris le plan de développement. Il s'est dit, soyons les premiers en fait, à lancer ensemble une filière de poissons nourris aux insectes. C'était une première mondiale. Et lançons, en fait, et expliquons aux consommateurs que c'est bien que sa truite soit nourrie avec des protéines d'insectes produites en France à partir de recyclant des coproduits agro-industriels. Et avec lui, on allait construire toute la chaîne de valeur. On allait voir les pisciculteurs en Bretagne, en Pas-de-Calais. On allait voir les fabricants d'aliments, travailler avec les différentes personnes. Là, c'est posé une autre difficulté. C'est maintenant que nos clients directs étaient plus intéressés à travailler avec nous parce qu'il y avait leurs clients qui leur avaient demandé. Il fallait qu'on ait des produits pour faire des essais à un peu plus grande échelle. Il fallait une centaine de kilos de protéines d'insectes. Et c'est pas facile à produire parce que 100 kilos de protéines d'insectes, c'est 500 kilogrammes d'insectes qu'il faut élever et le faire dans un laboratoire, c'est complexe.
Là, tes voisins, ils devaient moins te regarder de manière sympa.
Mais c'est exactement ça. et je me souviens que cette période était vraiment très, très marrante parce qu'on a transformé nos laboratoires en fait en ferme. En ferme d'élevage d'insectes. Où pendant des semaines entières, on était tous avec nos pelles, nos bleus de travail, en train de transformer en fait des laboratoires qui étaient censés accueillir du génie génétique en ferme d'insectes avec les odeurs qui accompagnent une ferme avec et je me souviens de lundi matin où tu as l'ensemble de tes voisins qui viennent en délégation accompagnés du directeur général du Génopole t'expliquer que c'est absolument plus possible comprendre ce qui se passe avec tes associés et toute ton équipe derrière en train de manipuler à la pelle les vagues de mouches et que tu leur expliques que c'est que le début parce que là tu lances une grosse production pour pouvoir produire un batch par contre qu'il n'y a aucun danger et donc c'était des discussions qui étaient extrêmement extrêmement pénibles et extrêmement complexes mais tu savais que de toute façon tu n'avais pas le choix que tu devais le faire. Tu devais fournir en fait un batch de 100 kilos de protéines d'insectes pour le mois prochain. Et donc, c'était non négociable. C'était comme ça. Mais c'était, il y a eu un peu de diplomatie à mettre en œuvre.
Tu n'avais pas eu le problème dans ta salle de bain?
Non. Moi, le problème dans ma salle de bain.
Et alors, juste pour revenir sur ce côté, aller jusqu'au bout de la chaîne de valeur, aller chercher le client final, parce que c'est finalement ça qui vous a pas mal ouvert les portes. Et tu prenais en comparaison peut-être des startups concurrentes qui ont moins réussi à percer. Est-ce qu'elles ont pas fait ce travail? Est-ce qu'elles ont été moins convaincantes? Est-ce que vous étiez les premiers à avoir cette idée d'aller au bout de la chaîne? Comment tu analyses ça?
Non, je pense qu'il y a d'autres startups qui ont percé. Je pense qu'en fait, on était peut-être plus pressés. Mmh. Plus pressés parce qu'on s'est aussi lancé un peu plus tard. Hein. La plupart des nos concurrents aujourd'hui sont des boîtes qui ont lancé en 2009, 2010, 2011. En fait, nous, on s'est lancé en 2016. On avait la conviction en fait, que le marché allait s'ouvrir dans les 12 mois qui viennent ou les 24 mois qui viennent. Il fallait être très, très vite. Pas du tout de temps à perdre. Et on savait en fait, que c'était des projets qui étaient très intensifs en capital. Donc du coup, toutes les 50 startups européennes ne seraient pas financées. Et on voulait être de ceux qui structureraient cette industrie, qui définiraient le modèle le plus performant, le plus vertueux sur le plan environnemental. Et je pense qu'en fait, on était pressé de passer à la R&D, pressé de commercialiser, pressé de passer à l'échelle supérieure. Et à cette époque également, je pense qu'à ce moment-là, on est en octobre ou novembre 2016. Mm-hmm. On a 6 mois. On se dit, même pas 6 mois. On a 5 mois. On se dit, il faut absolument qu'on construise un pilote, une usine.
Ouais.
Parce qu'en fait, le marché va s'ouvrir mi-2017. Il faut qu'on ait une usine. Il faut qu'on puisse réaliser, concrétiser cette filière de truites nourries à l'insecte, être les premiers au monde à le faire.
Là, vous aviez déjà de quoi, avec votre ferme à Genopole, faire le test dont vous avez parlé, mais pas forcément la suite, c'est ça?
Exactement. Là, c'était juste un test. Un test, c'est juste envoyer un batch de 100 kilos dans une station de R&D de ton client, qui va analyser en fait sur des dans son labo de R&D la performance de ton produit et valider pour le reste de la chaîne de valeur que les poissons grandissent bien, qu'ils ont un bon goût, qu'il n'y a pas de maladie et qu'in fine, en fait, le produit a bien la valeur que tu prétends qu'il a quoi en fait.
Ok.
Si on veut lancer des filières commerciales, hein, il s'agit de plusieurs tonnes et plusieurs dizaines de tonnes. Mais petite difficulté à ce moment-là, c'est que pour construire cette usine, on n'a pas d'équipe d'ingénieurs pour la designer, on n'a pas les financements pour la construire. Et puis en fait, on n'a pas le droit de construire une usine d'insectes. La réglementation ne le permet pas.
Ah, ça, c'est bête.
Mais on se dit, on va y arriver quand même. Et puis on veut le faire. On veut démarrer notre usine en septembre 2017, donc dans moins de 10 mois plus tard, pour pouvoir lancer ces filières commerciales.
Ça, ce frein réglementaire, j'imagine que vous l'aviez identifié assez tôt. Dans votre exploration, comment tu te dis ouais, c'est pas grave?
Bah, tu dis que t'as très 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 envie de la construire cette usine d'insectes. t'as très très envie et tu vas trouver une solution et donc t'explores tout et là tu vas parler un peu à tout ton réseau, tous les gens que t'avais rencontrés, que t'avais fait des autres du projet et tu finis par identifier une petite lueur à un moment donné, qui est c'était Éric Tirouin qui était président de la Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loire, vice-président de la FNSEA, qui dit mais il y a un appel à projet là qui est lancé par l'Élysée qui s'appelle France Expérimentation, qui vise à sélectionner en fait des projets qui nécessitent une évolution de la réglementation pour pouvoir être réalisés. Et que les projets vont être sélectionnés sur la base de leur potentiel économique. Je vous conseille de candidater. L'appel à projet ferme dans 10 jours. et il y a 100 projets qui ont candidaté, il y aura 5 lauréats.
Et donc 5 régulations qui vont évoluer.
5 réglementations qui vont évoluer pour pouvoir permettre la mise en œuvre de nouveaux projets. Donc là, tu construis un dossier. On n'est pas trop mauvais. Enfin, le conseil, ce n'est pas une mauvaise expérience pour pouvoir apprendre à faire des dossiers assez rapidement, à mettre en évidence le potentiel économique. Et t'explique en fait que l'indépendance protéique de l'Europe, de la France est très importante, que l'économie circulaire, que tu peux créer tel potentiel de création d'emplois, quelles sont les barrières réglementaires, quelles sont en fait les garanties sanitaires que tu peux apporter, une analyse de risque, t'as un dossier, t'as une audition, et on est sélectionné parmi les 5 projets sur les 100 candidats qui bénéficient de cette expérimentation. On est reçu à ce moment-là en février 2017 par François Hollande à l'Élysée et évolution de la réglementation et possibilité de construire cette usine.
Waouh.
Donc ça c'était un petit miracle. Je pense qu'en fait il y a quand même pas mal de la chance est assez importante en fait au départ d'un projet. Enfin, je pense qu'il se provoque parce que te dire tu as tellement envie. Tellement d'énergie, t'as tellement envie d'y arriver que tu cherches absolument partout toutes les solutions, et tu explores 15 pistes et sur les 15 pistes, il y en a une qui va finir par marcher. Mais tant que t'as pas exploré les 15 pistes quelque part, t'as une chance de pas y arriver.
Ouais, je trouve ça très fort aussi parce que on entend parler de startups qui font évoluer les réglementations, mais en général, c'est dans des approches plutôt conflictuelles, si on pense aux situations des VTC, que ce soit en France, aux US, etc. Là, je trouve ça assez impressionnant de dire que vous avez été finalement assez précurseurs et vous êtes ceux qui ont ouvert la voie, en fait, à cette industrie en France, et vous l'avez fait en travaillant avec les institutions.
Ouais, et je pense qu'en fait, c'est... On n'a pas le choix dans le domaine dans lequel on est, parce que c'est le domaine de l'alimentation. Et le domaine industriel. Donc, quelque part, le niveau de principe de précaution, le niveau de risque, n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que tu peux être que dans une démarche de co-construction, parce qu'en fait, la prise de risque n'est pas permise dans l'industrie agroalimentaire. Et donc, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Mais c'est juste non négociable. Tu peux pas. C'est une approche conflictuelle. Hein. Tu dis, je vais le faire quand même. Tu te fais exploser.
Oui, ça va
à la
pas
fois
marcher.
À la fois par tes clients, à la fois par l'État, et tu détruis toute crédibilité en fait. Tu es obligé d'avancer main dans la main, construire des bonnes relations avec les cabinets ministériels, avec l'administration décentralisée et centrale. C'est indispensable. Et donc, du coup,
ouais.
On a notre réglementation ouverte, mais on n'a toujours pas d'équipe et toujours pas de financement.
Oui. Et le MVP d'une usine, il n'est pas facile, j'imagine.
Non. Non. Comment est-ce qu'on s'y est pris ? Pour l'équipe, en fait, on était assez pragmatique. On s'est dit, on ne veut pas défocaliser notre équipe de R&D. Parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas encore se faire reproduire les insectes. On avait envie qu'ils y arrivent avant que l'usine démarre, quand même. Quoi. Donc, en fait, on va se le prendre directement. On était 4 ingénieurs parmi les fondateurs. On dit, en fait, on va découper notre process en 4. Et on va chacun s'en prendre une partie. Moi, je me prenais la partie préparation des aliments et pour les larves et injection des aliments. Bastien se prenait la partie croissance des larves. Aude, la partie reproduction. Et Guillaume, la partie transformation en produits finis. Et là, en fait, tu rentres dans tous les détails. Tu dis, en fait, comment est-ce que je fais pour stocker mes produits initiaux? Comment je fais pour les mélanger? Comment je fais pour les convoyer? Comment je fais pour les injecter? Tu explores toutes les solutions possibles. Tu vas rencontrer les fournisseurs. Tu vas rencontrer les fournisseurs de mélangeuses agricoles. Et le plus marrant, c'est qu'il faut que tu testes les équipements. Très souvent, en fait, je me souviens de trajets absolument galères où tu te... Où t'amènes en fait des caisses d'insectes dans ta voiture ou dans ta camionnette jusqu'à ton fournisseur avec des situations très cocasses. Tu te fais arrêter sur l'autoroute à la frontière belge parce que tu vas voir un fournisseur en fait en Belgique avec.
Qu'est-ce que vous avez dans le coffre, monsieur?
Qu'est-ce que vous avez dans le coffre? Exactement, exactement. Ben j'ai des déjections de larves et j'ai 100 kilos de larves dans le coffre. Et donc là le gars me dit mais c'est quoi ça? Quoi ce bordel? Ouvrez s'il vous plaît. Donc il planche la main dans la caisse palette hein, et il manipule en fait qu'il y ait des déjections de larves.
Non.
ce qui est beaucoup moins dégueulasse que ce que tu peux imaginer. Et en fait, il découvre qu'il y a des larves à l'intérieur. Il comprend absolument pas. Il pense que visiblement c'est pas ce qu'il cherche. Donc il te laisse repartir complètement perplexe. Tu lui expliques qu'il se lave les mains parce qu'il a mis ses mains dans la merde de larves. Mais je pense que le gars, ce n'est pas encore remis quoi. Je suis très content qu'il me laisse passer. J'ai pas tellement envie de. C'est déjà suffisamment galère de faire le livreur de larves. D'autres situations où tu débarques en fait avec un petit camion rempli de caisses avec des larves, et que lorsque tu ouvres les caisses les portes du camion avec ton fournisseur avec qui tu vas utiliser les larves, tu te rends compte en fait qu'elles sont parties partout dans le camion, qui n'a sur tous les murs et tout le plafond. Donc là tu regardes ton fournisseur qui fait une tête assez particulière. Donc tu expliques que c'est pas grave, hein, parce qu'il a un balai, on va les ramasser, on va les remettre dans les boîtes. Et donc c'est vraiment très 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 concret, encore une fois très main dans le cambouis quoi. Il y a une usine à construire, on a pas encore d'équipe, on a notre recruteuse qui est là pour la recruter, mais en même temps on a que 6 mois, on y va. On s'est divisé le process, c'est pas compliqué, il y a 5 équipements à acheter chacun, on a chacun un budget de 100 ou 200 000 euros pour chaque partie du process, et on y va quoi, et on rentre dedans. Et in fine, en fait, le process a plutôt pas mal fonctionné, chose qu'on a redesigné, mais ça nous a permis en fait je pense avoir un budget, de tenir les délais, de tenir un budget très 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 lean, et on a construit en fait un process de production industrielle.
Là, vous aviez retrouvé de l'argent.
On n'avait pas relevé à ce moment-là. On avait eu encore, on avait fait quelques petites opérations d'obligations converties parce qu'on voulait pas en fait faire lever l'equity à ce moment-là, et on devait avoir 1 million de financement, un petit peu moins en fait à ce moment-là. Et dernier sujet, c'était effectivement, on avait l'argent pour pouvoir acheter les équipements du process, mais on n'avait pas en fait des financements pour pouvoir construire un bâtiment, une usine complète. Et à ce moment-là, on savait exactement en fait dans quel territoire on voulait s'implanter, dans les Hauts-de-France, parce que c'est le premier gisement européen de coproduits agro-industriels. Donc c'était là qu'on voulait déployer notre industrie. Donc mettons nos pilotes à ce moment-là. On fait un peu le tour des différents territoires avec les agences de développement économique. On a dû visiter, je pense, une cinquantaine de terrains ou de bâtiments. Et on choisit en fait on retient un projet qui est à Gouzeaucourt, près de Cambrai, où c'était un projet de bâtiment relais, donc une mairie qui voulait construire un bâtiment, un bâtiment qui n'était pas encore construit, pour pouvoir accueillir des activités industrielles et créer des emplois. Ça nous intéressait, parce que c'était non seulement un bâtiment qui était financé, mais également un bâtiment qu'on pouvait un peu adapter à la marge pour qu'il soit parfaitement cohérent par rapport à notre process. Il y avait quand même en ce moment-là quelques doutes pour avoir de la mairie et de la communauté d'agglomération de construire en fait une usine d'insectes pour une boîte qui n'avait pas de bilan, qui avait 9 mois d'existence, qui n'avait pas de financement, pas de chiffre d'affaires. Parce que une fois qu'ils ont construit l'usine d'insectes, si elle ne tourne pas, c'est quand même en fait une perte sèche.
Surtout si vous adaptez les specs du bâtiment spécialement à vos usages.
T'en fais pas grand chose en fait à ce moment-là d'une insecte. Aujourd'hui, ouais. Je pense qu'on fait un peu plus de choses vu en fait le marché a explosé, mais à l'époque c'était un pari assez téméraire également de la part des gens. Et en fait, je trouvais que c'était incroyablement en fait courageux et entreprenant de la part du maire de Cambrai, qui est le président de la communauté d'agglomération, de prendre des décisions de construire ce bâtiment. Et bon, y a pas mal de choses qui ont joué. Il y avait différents soutiens qui ont été exprimés, différents soutiens politiques. Il y avait le fait qu'on ait pu les inviter également, les différents maires à l'Élysée au moment où on a reçu en fait notre prix. Mais in fine, en fait, j'ai discuté avec lui quelques années après. Donc pourquoi en fait il nous avait suivis,
ouais.
Et en fait, il me dit, ben, si vous étiez, si Clément, t'étais venu me voir tout seul, je t'aurais pas suivi. Parce qu'en fait, des uluberlus et des fous, on en rencontre beaucoup. Mais ce qui m'a convaincu, c'est que vous étiez quatre à utiliser votre temps et votre énergie dans ce projet, à y croire, à tout mettre, tout ce que vous aviez dans, dans le truc, alors que vous avez quand même pas mal de choses à perdre. Et le fait que lorsque quatre personnes convaincantes, structurées, qui ont beaucoup de choses à perdre, s'investissent dans un projet, c'est beaucoup plus rassurant. Donc j'ai pas su, donc j'ai suivi en fait une équipe et j'avais pas tout à fait réalisé en fait la puissance car la puissance de conviction qu'a une équipe par rapport à un individu. Un individu en fait tu sais pas tellement quelle est l'authenticité, la sincérité, la force en fait de ce qui forme, même s'il est très convaincant. Par contre, une équipe, quand tu vois qu'une équipe de 4 personnes, de 10 personnes, de 100 personnes en fait, s'investit dans un projet, y croit, ça, c'est une force de conviction énorme.
Oui, c'est que la probabilité qu'ils sont tous fous diminue avec le nombre.
Et je trouvais son raisonnement assez intelligent. Moi, je connaissais absolument rien à l'insecte. Je n'avais aucun moyen en fait d'évaluer la pertinence de votre projet. Par contre, la seule chose à laquelle je me suis fié, c'est le fait que j'avais en face de moi une équipe qui avait chacun un discours cohérent, un discours construit. Et je me suis dit, moi, j'ai 75 ans. Pas grand chose à perdre. vous avez tout à perdre. Et si vous lancez, si vous y croyez, il n'y a aucune raison qu'on ne vous suive pas. Et que c'était important pour mon territoire, en fait, d'accueillir des projets aussi innovants, parce que l'innovation déclenche l'innovation, et que si on n'arrive pas, c'était une chance pour mon territoire de mettre en place un projet de ce type. Je sais que vous alliez former des gens, vous alliez créer en fait une dynamique, un écosystème dont on a absolument besoin aujourd'hui. Donc c'est assez intéressant de comprendre a posteriori ce point, parce que sur le moment, j'avais pas du tout compris pourquoi ils nous suivaient. Je sais que ça relevé aussi en fait du miracle comme ce mécanisme pour l'expérimentation. Tout nous souriait à ce moment-là. Je pense que c'était un moment du projet qui était en fait plein de galères parce que c'est un projet industriel où il fallait en fait t'avais plein de petits trucs pénibles à gérer, mais t'avais quand même l'impression d'avoir une bonne étoile, sur les fondamentaux
ça vous souriait plutôt quoi, alors que et sinon les galères c'est l'opérationnel à gérer, c'est les coffres remplis de larves,
exactement. Et puis les larves qui s'échappent
Et donc là, vous avez votre bâtiment pour faire votre usine pilote. Vous avez commencé à trouver les différents maillons de la chaîne de votre usine et les différents fournisseurs. Vous avez en parallèle commencé à recruter des personnes qui savaient un peu mieux que vous comment gérer une usine, c'est ça ?
C'est exactement ça. Tu vois, on a recruté en fait sur le deuxième trimestre 2017, une vraie équipe d'ingénieurs capable en fait d'automatiser en fait la ligne de production. On a démarré en fait la construction du bâtiment en juin 2017. Mis une pression énorme sur tout le monde. Le bâtiment a été finalisé en septembre 2017. Donc c'est un bâtiment 3000 m², hein, c'est 5 millions d'investissement quand même. Donc on l'a fait construire en 3 mois. On a installé le process sur septembre-octobre, on parlait de la finalisation du bâtiment, et on a démarré l'activité de production en novembre 2017, c'est-à-dire 18 mois après avoir créé Innovafit.
Wow. Et là, niveau marché, niveau client, vous aviez du coup cette ligne à construire avec Auchan de truites nourries aux insectes. Vous en aviez d'autres, vous avez continué à essayer d'aller chercher d'autres clients pendant la construction de votre usine, ou c'était juste focus sur Auchan?
Oui, absolument, on a continué à développer d'autres clients, même si en fait cette simple filière dépassait de très loin en fait les capacités de production de notre site industriel en fait.
D'accord.
Donc c'était important de diversifier, de continuer à développer, d'avoir un coup d'avance. Mais c'était pas nécessaire
pour la suite. D'accord.
Et quelque part, à ce moment-là, on avait vraiment l'impression un peu l'impression d'être roi du pétrole, d'avoir été trop fort, d'avoir construit une usine en 18 mois. En fait, c'était encore que le début de la galère, parce qu'en fait, entre le fait de construire l'usine et de la faire fonctionner, il y avait en fait un écart qu'on n'avait pas mesuré. C'était la période où il a fallu en fait faire fonctionner ce process industriel comme il devait, a été extrêmement complexe et beaucoup plus longue et consommatrice d'énergie que qu'envisagé.
L'idée, c'est quoi? C'est réussir à reproduire les conditions que tu avais dans ton laboratoire, en tout cas les performances que tu avais dans ton laboratoire sur tes chaînes de production, c'est ça?
Exactement. Et de le faire, en fait, de stabiliser une production à grande échelle à ce niveau-là. Et c'était vraiment, il y a des périodes qui étaient difficiles. Tu débarques, enfin, tu passais plusieurs semaines à essayer d'augmenter, de monter en régime, de monter en croissance. Et tout d'un coup, tu débarquais le lundi matin et tu avais la production qui avait clamé, qui avait dit, enfin, tous tes insectes étaient morts. Tu comprenais pas pourquoi.
Wow.
Donc tu devais absolument tout nettoyer, donc c'est une semaine de galère. Tu savais que tu avais besoin d'un mois après de remonter en puissance, mais surtout plus inquiétant, c'est que tu savais pas pourquoi en fait. Tu comprenais pas et là tu avais tout le monde qui allait de son hypothèse, de la plus ésotérique à la moins ésotérique, question de virus, de bactéries, de... Et en fait, au bout d'un moment, tu te mets à tout suivre. Notre usine actuellement, elle est équipée de 10 000 capteurs. Tu suis tous les paramètres. En fait, tu comprends, en commençant à analyser les data et en corrélant les choses, que c'est juste un des paramètres d'élevage qui à un moment varie et diverge. Et qu'il suffit de le contrôler pour pouvoir maîtriser tous ces épisodes de mortalité.
C'est appréhendable là pour nous si tu nous racontes ce que c'est ou...
Ouais, je peux pas le partager.
Okay,
en gros, un des paramètres d'élevage que tu peux mesurer, où tu comprends en fait que c'est ça qui drive, qui doit être... Il faut que tu... T'as une dizaine de paramètres qu'il faut que tu suives, que tu conserves dans des valeurs précises, et que si ces paramètres divergent, c'est là où se trouve aussi une partie de la technologie, du coup ta production se passe mal. Et qu'il n'y a rien en fait d'ésotérique. C'est pas un virus que tu connais pas, c'est pas les phases de la lune, c'est pas en fait le marabout du coin. C'est juste que très scientifique, et il suffit de maîtriser ces données, de comprendre les conditions thermodynamiques, de les maîtriser et de les suivre. Et donc, quelque part, le moment où tu te dis bon, non seulement en fait j'ai galéré à monter en régime ma production. Maintenant, en fait, je vais devoir passer une semaine à tout nettoyer, à tout recommencer, que je vais devoir dire à mes clients que je ne vais pas pouvoir les livrer. Et qu'en plus, tu as l'inquiétude. Tu as une inquiétude que tu n'arrives pas tout à fait à raisonner sur est-ce qu'il n'y a pas des limites structurelles à ce que tu es en train de faire. C'est des moments qui sont assez durs. Et je pense que ce qui est important aussi à ce moment-là, c'est de faire face très concrètement à tes problèmes d'aujourd'hui, déployer les ressources et des énergies pour pouvoir les résoudre, dire ok, comment est-ce qu'on va faire? On va mettre des capteurs partout, on va créer une équipe de performance opérationnelle qui data scientists qui analyse les données, qui les explique. On va être très rationnel et très factuel, et en même temps de continuer à avancer avec l'hypothèse que tu vas résoudre tous tes problèmes, parce qu'en fait si tu t'arrêtes quelque part tu perds le momentum, tu perds le dynamisme. Et à ce moment-là, ça a été donc fin 2017, début 2018, on se met à la recherche de notre premier site à très grande échelle, 30 fois plus grande que notre pilote, et on lance une sorte d'appel d'offres entre les différents partenaires qui pourraient nous fournir de la matière première. Pour être encore les premiers en fait à construire cette prochaine. Et c'est dans ce contexte-là en fait qu'on a en mi-2018 en fait, fin du premier semestre 2018, sélectionné le site de Nel en Picardie pour construire notre premier site à très grande échelle.
Ok. Et donc pour ça, là, vous avez dû du coup lever pour pouvoir faire ce site-là, ou vous avez encore trouvé un autre levier?
Non, là effectivement on a fait deux opérations, fin 2017, début 2018, qui nous a permis de réunir 15 millions de financement avec des fonds d'impact comme Alter Equity, des fonds régionaux, des business angels qui ont continué à abonder. Et en fait, quelques mois après avoir fait cette opération, on a été approché par des acteurs beaucoup plus gros de financement, notamment en fait Creadev et Temasek, qui s'intéressaient au secteur parce qu'il se passait des choses dans le secteur et ils voulaient comprendre quel était le paysage concurrentiel et dans quel acteur il fallait investir. Et on n'avait pas besoin de lever maintenant, mais ils souhaitaient investir dans le secteur. Ils souhaitaient investir chez Innovafit plutôt que chez d'autres acteurs. Et donc, du coup, on a anticipé notre opération suivante. Et on a fait une deuxième opération qui nous a permis de réunir 40 millions d'euros de financement avec Temasek et Créadev. Comme deux gros fonds. Temasek, c'est le fonds souverain de Singapour. Ils ont 300 milliards sous gestion. Généralement, ils font très peu d'investissements en dessous de 100 millions d'euros, en fait. Et on était la plus jeune entreprise dans laquelle ils aient jamais investi.
Wow.
L'opération là, de Temasek et Créadev, on l'a clôturée fin 2018.
Fin 2018. Et du coup, là, vous êtes repris les galères de refaire une usine 30 fois plus grande. Mais avec cette fois-ci l'équipe, j'imagine, qui était un peu plus rodée et en plus où vous saviez un peu mieux quelles étaient les différentes étapes, qu'est-ce que vous vouliez mesurer et piloter à chaque étape.
Exactement, exactement. Je pense que l'approche est complètement différente. Je pense qu'on a, il y a eu, en France, construire des usines, c'est compliqué d'un point de vue réglementaire. Donc là, même si la réglementation était en place, il y a toujours un délai très fort en fait pour construire des usines de cette taille. Vous avez des processus d'enquête publique, des procédures qui peuvent mettre en fait 2 ans entre le moment où ton projet est complètement ficelé, tous tes plans sont prêts, au moment où tu as le droit de construire ta première pierre. Donc, il a fallu en fait beaucoup collaborer avec l'administration, à la fois au niveau de la préfecture, de la région, mais aussi de l'État central, pour voir comment est-ce qu'on fait pour aller plus vite. Parce qu'en fait, ce n'est pas acceptable dans une industrie aussi innovante, si on veut être les leaders mondiaux de ce domaine, de le faire, en fait, d'attendre 24 mois entre le moment où tu es prêt à commencer et le moment où tu veux effectivement commencer. Donc, on a réussi à condenser, en fait, en collaborant avec l'administration, condenser de façon énorme en fait, ce délai. Effectivement, le processus a été complètement différent de conception. Là, tout est automatisé. L'échelle est radicalement différente. Aujourd'hui, c'est la plus grande usine de production d'insectes au monde, la plus avancée sur le plan technologique.
Bravo.
Et il y a 70 personnes qui travaillent sur le développement de la technologie aujourd'hui chez Innovafit, sur les aspects de R&D, sur les aspects en fait d'ingénierie. Donc ingénierie, c'est les gens qui font le design industriel et qui réalisent en fait jusqu'au commissioning des équipements, et les équipes de performance industrielle et de data qui analysent l'ensemble des paramètres, qui aident les équipes de production à opérer les unités.
Ok. Du coup, aujourd'hui, là, vous avez... Donc, ça, c'était votre première grosse usine. Le temps, j'imagine, de la développer, là aussi, vous aviez eu le temps de chercher d'autres clients aussi, parce que le marché devait être un petit peu plus évangélisé à ce moment-là. Donc, comment tu fais pour aller chercher tous tes clients, ou est-ce que juste vous êtes resté encore avec Auchan ?
Non, absolument. C'est un processus continu, le développement commercial. On a dû réaliser une trentaine de tests supplémentaires sur des saumons, sur des crevettes, sur des tilapias, sur des bars, sur des dorades. L'exemple en fait d'Auchan, la filière avec Auchan a été assez catalytique parce qu'elle a montré en fait l'intérêt, au-delà de la performance nutritionnelle, la performance santé, l'intérêt marketing en fait qu'apportait notre innovation. À l'aquaculture. Et in fine, en fait, aujourd'hui, on a mis en place des contrats importants avec nos clients directs, en particulier avec Cargill, qui est le leader de la nutrition animale au monde. C'est un groupe qui fait 150 milliards de chiffre d'affaires. Et on a un contrat qui nous permet de... Enfin, sur les volumes futurs que produira Innovafit. Dans l'usine qu'on est en train de démarrer, dans les suivantes. Ils s'engagent à acheter une partie de notre production, s'engagent à leur vendre une partie de notre production. On collabore sur les sujets marketing. On va vendre ensemble, en fait, à leurs clients de l'aliment pour poissons qui incorpore de la protéine d'insectes. Et on collabore de façon très, très intense sur les sujets de R&D. On a également, en fait, signé des contrats similaires avec d'autres acteurs de l'aquaculture on a également d'autres produits que la protéine d'insecte, de l'huile d'insecte notamment, où on a construit des filières similaires à celle de la truite nourrie à l'insecte. On a lancé le mois dernier en fait des poulets nourris à l'insecte avec de l'huile d'insecte. C'était commercialisé chez Auchan. Et on a également fait un dernier produit qui est un engrais organique, donc des petits granulés qui sont en fait les déjections des insectes, qui sont très très qui ont une performance exceptionnelle dans la croissance des plantes. Et l'intégralité de ces produits sont sécurisés.
Donc vous utilisez même les déchets que vous produisez en fait.
Absolument. Je pense que c'est ça la circularité de notre modèle. On prend en fait des déchets de la transformation du blé, par exemple, en farine ou en amidon, ou en éthanol, comme input pour nos sites. On en extrait, en fait, la protéine de l'huile à travers notre élevage. Et nos propres coproduits sont des engrais organiques qui peuvent revenir par exemple sur les cultures de blé, qui servent à alimenter, en fait, les usines de transformation qui génèrent les coproduits qu'on utilise. Donc, quelque part, c'est ça l'approche circulaire qu'on apporte.
Ouais, c'est beau.
Et c'est exactement en fait ça, c'est exactement le rôle de l'insecte dans la nature. Un insecte, ça se met dans une pomme, ça la transforme en fait, ça la dégrade, ça la transforme en sol, sinon la pomme serait un déchet qui resterait beaucoup plus longtemps. Et ça réinjecte dans la chaîne alimentaire des nutriments. Et c'est exactement ce qu'on est en train de réaliser pour rendre le système alimentaire plus pérenne. Je pense qu'on va même assez loin en fait dans cette logique de circularité. On est certainement en fait, comme on est un business greenfield, on a la possibilité de construire des modèles très très vertueux dès le départ.
Ouais.
Et on allait très loin dans cette construction de ce modèle en développant sur notre site de Nel un modèle de symbiose industrielle. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Vas-y.
Ça veut dire que on a besoin de matières premières, on a besoin d'énergie. Comment est-ce qu'on fait pour avoir le moins d'impact possible sur l'utilisation de cette matière première et l'utilisation de cette énergie ? On se met juste à côté, en fait, de là où la matière première, là où les coproduits et les déchets sont produits. Donc, on a acheté un terrain, en fait, à Tereos, qui transforme sur le site de Nel 1 million de tonnes de blé en éthanol, amidon, etc., et qui génère des déchets. Ces déchets, on les récupère sans aucun transport par camion. Ils sont directement acheminés depuis l'usine de Tereos vers l'usine de Novafit à travers des tuyaux. Et ça économise 8000 transports par camion par an. Ces déchets, on les récupère, en fait, ces coproduits, on les récupère en amont du process de Tereos. Jusqu'à présent, en fait, ils étaient séchés avec des consommations de gaz importantes. Et on les récupère à ce stade sous forme humide et liquide, parce qu'on peut utiliser des aliments humides et liquides comme nourriture pour les insectes. Et de cette on a dû comprendre avec Tereos comment fonctionnait leur process, quelles étapes de transformation de ces coproduits on pouvait
enlever,
quelle valeur ça pouvait générer. Et c'est plusieurs dizaines de milliers de tonnes de CO2 économisées lorsqu'on évite en fait le séchage de ces coproduits. Et dernier sujet, c'est que on a besoin en fait comme intrant de cette matière première qu'on a optimisée en se mettant juste à côté. On a également besoin d'énergie. On a besoin d'énergie basse température. On a besoin d'énergie à 50 degrés pour pouvoir chauffer nos serres, chauffer nos zones d'élevage. Et là, en fait, on récupère de l'énergie, ce qu'on appelle de l'énergie fatale, c'est l'énergie perdue, dissipée dans l'atmosphère, auprès d'autres partenaires industriels qui sont présents sur cette bioraffinerie, notamment une centrale électrique. Et on récupère 15 mégawatts d'énergie fatale. C'est un investissement de 10 millions d'euros quand même pour récupérer cette énergie perdue. De manière à utiliser aucune énergie primaire dans toute notre partie élevage. L'intégralité de l'énergie qu'on utilise pour élever nos insectes, c'est de l'énergie fatale récupérée. Et donc du coup, l'impact de ce modèle de symbiose, il est absolument décisif. Il réduit de façon très très forte, réduit de 80% l'impact carbone de nos produits, qui les rend en fait incroyablement plus performants en termes d'impact carbone que l'ensemble des produits que l'on remplace. L'économie que génère cette symbiose industrielle, c'est 57 000 tonnes de carbone par an pour cette usine. Et la performance économique est également très forte parce que en évitant la logistique, en créant la synergie énergétique qu'on se partage avec Tereos et en ne payant pas notre énergie, c'est une vingtaine de points d'EBITDA supplémentaires qui sont générés et qui permettent d'avoir des produits plus compétitifs et à plus grande échelle.
Alors ça, c'est un peu une question que j'ai sur comment piloter une boîte avec une mission d'impact comme ça, parce que est-ce que... ma question va paraître bizarre, mais Est-ce que tu fais cette décision de te mettre, d'essayer d'abaisser cet impact juste uniquement par les valeurs de la boîte, ou est-ce que tu arrives à le justifier, tu vois, par exemple ton investissement de 10 millions par une notion de rentabilité, par une notion de meilleure accessibilité au marché, par une notion de par une notion business en fait. Voilà, ma question c'est un peu, voilà, est-ce que tu pilotes ça uniquement par le côté bah, c'est nos valeurs, il faut qu'on fasse comme ça, ou et finalement l'impact business est un upside, ou c'est vraiment la coordination des deux qui fait que ça marche?
Question extrêmement, extrêmement intéressante et complexe que tu poses. Il y a les cas les plus faciles où les deux vont dans le même sens. Là, en l'occurrence, les exemples que je te donne, ça va dans le même sens. C'est-à-dire que se colocaliser avec la matière première, même investir 10 millions d'euros, c'est rentable en fait. C'est rentable, tu rentres sur investissement assez rapide, tu as les aides publiques qui te permettent en fait, de financer une partie de cet investissement. Donc ça fait du sens d'un point de vue économique. La question qui doit se poser après, c'est si en fait tu as des trade-offs à faire. Beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué parce que ton impact va dépendre également de l'échelle à laquelle tu vas pouvoir amener ton modèle et ta production. Et l'échelle dépend de la compétitivité. Donc du coup, en fait, tu dis, est-ce que j'ai déjà un impact qui est 50% meilleur que les produits que j'en place? Est-ce qu'il faut mieux que je produise deux fois, que je produise de façon plus compétitive, hein, deux fois plus de produits, ou bien il faut que j'aille chercher en fait un impact 60% inférieur, mais par contre je vais rester sur des marchés de niche parce qu'en fait je vais pas pouvoir rentrer dans l'alimentation des saumons que tout le monde mange. En fait. Ouais. C'est des questions extrêmement complexes. Et je ne sais pas exactement comment on sera capable d'y répondre le jour où il y aura des trade-offs très forts à faire. Pour moi, en fait, je pense qu'il y a surtout beaucoup d'intelligence à mettre pour essayer de concilier les deux. Parce que aujourd'hui en 2020, peut-être que 2025 sera un peu différent, tu as besoin d'avoir ton marché va pas t'acheter ton produit uniquement parce qu'il est meilleur sur le plan environnemental. Ton client a beaucoup de mal à traduire en fait, de la valeur environnementale dans de la valeur économique. Donc c'est un défi énorme. Il faut vivre avec les contraintes d'aujourd'hui. On a besoin de pour pouvoir avoir de l'impact demain, on veut que nos produits soient live aujourd'hui. Et donc le jour où il y aura des trade-offs importants qui se présenteront, je sais pas exactement en fait comment on s'y prendra pour y répondre. Je suis désolé de pas avoir de
micro. Non, mais c'est parfait, ça illustre extrêmement bien ma question, hein. Et en effet, je pense que je suis d'accord avec toi. Là où je vous fais confiance, c'est que vu votre track record, je sais que vous allez mettre toute l'intelligence qu'il faut pour essayer de réaligner finalement les objectifs et faire cet effort supplémentaire d'essayer de trouver une solution, parce que j'ai l'impression que c'est comme ça que vous avez fait, un, que vous avez piloté la boîte depuis le début, et puis deux, que c'est à gros coup de réflexion et de problem solving que vous avez fait évoluer si vite InnovaFeed. C'est quoi vos challenges aujourd'hui?
par où commencer? Je pense qu'il y a un challenge d'organisation humaine où le but c'est de rester en fait aussi efficace et aussi performant dans une organisation qui grossit que lorsque tu es une petite escouade de 30 personnes ultra motivées. On a besoin de conserver notre si on veut être les leaders de cette industrie, on a besoin de garder notre agilité, notre rapidité d'exécution. Et c'est beaucoup plus compliqué de le faire quand t'es 100, 200, que lorsque t'es 30 en fait. Donc tu as besoin d'impulser, en fait, d'être toujours aussi exigeant au niveau du recrutement, d'impulser en fait la bonne culture, le bon mindset. Et aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel, en tant que fondateur, avec mes associés, on investit énormément pour pas le perdre, en fait. Hein. C'est un gros défi. Il y a des défis technologiques qui sont encore très importants, parce que même si on démarre notre très grosse usine, il y a encore beaucoup de défis technologiques qu'il faut qu'on se confronte. Certains qu'on a déjà identifiés, d'autres qu'on n'a pas encore identifiés. Et de la même façon que j'évoquais par exemple le fait de bien maîtriser les différents paramètres en mettant des capteurs, ce qu'on a compris dans l'étape précédente, je pense qu'on aura le même type de réalisation et on s'y prépare. Avec les enjeux qui sont de plus en plus importants, donc les temps de réaction qui doivent être de plus en plus faibles, parce qu'aujourd'hui nos contrats sont quand même beaucoup plus importants et les enjeux financiers augmentent. Il y a un défi de déploiement de ce modèle. Je suis raconté qu'on avait beaucoup parallélisé, qu'on avait commencé à construire notre pilote, enfin commencé à préparer notre pilote avant de savoir se faire reproduire des mouches, qu'on avait en fait commencé à concevoir notre prochain site avant d'avoir démarré notre pilote. Là, on a déjà signé les prochains projets qu'on veut mettre en œuvre, en France et ailleurs, pour pouvoir avoir le plus d'impact possible plus tôt. Et après, il y a d'autres filières commerciales à continuer à construire. Notamment sur les volailles, sur les porcs avec de l'huile d'insecte où il y a encore des développements à réaliser, mettre en évidence toutes les propriétés de nos produits. Il y a plein de choses à explorer aussi. Il y a un défi de rester aujourd'hui, en fait, il y a un défi de à la fois rester focalisé sur notre métier de base, parce que cette focalisation a fait notre force jusqu'à présent. En même temps, il y a beaucoup d'autres opportunités qu'on a envie d'explorer, il y a beaucoup de marchés annexes. Des produits dérivés d'insectes qui peuvent avoir beaucoup des effets santé sur la nutrition humaine, des effets en fait, des produits beaucoup plus techniques qu'on a envie de commencer à explorer, et on se pose la question de savoir est-ce que c'est le bon moment ou est-ce qu'on attend encore quelques mois pour avoir toutes nos ressources focalisées sur les sujets cœur.
Toujours cette tension entre le focus et la diversification.
Ouais, absolument. Et on se pose la question de si c'est le bon, enfin quelle mesure on a. Je pense qu'on a été extrême dans le focus. À quel moment, en fait, on commence à lâcher un peu la bride, quoi.
Bah, vu que vous savez bien paralléliser, a priori, vous devriez réussir à négocier un petit peu les deux, peut-être détacher une squad qui va explorer d'autres marchés.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement, tu veux dire, tu détaches tu crées une équipe pour le faire, ouais.
Et d'un point de vue personnel, maintenant, toi, tu fais quoi? Tu vas encore à l'appel dans les dans les larves d'insectes ou
Ouais, tu montes l'exemple.
Déjà, comment vous êtes répartis les rôles à quatre, et du coup, toi, maintenant, ton rôle, c'est
Moi, je m'occupe beaucoup des sujets de chaîne de valeur, hein. Tout ce qui se passe en amont d'une Novafeed, tout ce qui se passe en aval d'une Novafeed. Donc en amont de Novafeed, c'est les partenariats avec les agro-industriels qui nous fournissent la matière première et l'énergie. La signature des deals pour les sites de Novafeed, la structuration des contrats, la définition du modèle, le déploiement en fait quelque part en France et ailleurs. Toute la partie aval avec l'équipe BizDev, donc du marketing au développement produit. Je pilote certaines des activités de R&D qui sont liées à ces sujets. Donc sur la partie amont, c'est toute la R&D qu'on fait sur la nutrition des insectes. Quels sont les produits d'intérêt, quelles sont les formules optimales et quels sont les meilleurs arbitrages technico-économiques. Sur la partie aval, c'est le développement de nouveaux produits, l'amélioration de nos produits. Et j'interviens également sur les sujets de financement haut de bilan essentiellement. Donc financement en fait en levée de fonds. Je pense que je passe facilement un tiers de mon temps, peut-être même la moitié, sur ce que j'appelle presque construire Innovafeed, c'est-à-dire pas de sujet business directement, mais du recrutement, des discussions informelles avec les équipes, la définition de process, de l'organisation, des outils dont on a besoin. Tu vois, le but étant, ce que je disais, de rester aussi efficace à plus de 100 qu'on était à 30, et donc tu as besoin d'avoir les bonnes personnes et les bons outils et les bons process et les bonnes... Je pense qu'on est une organisation extrêmement processée, je n'ai pas beaucoup parlé, mais parce qu'il y a énormément d'énergie du fait des profils qu'on recrute, et on a besoin de canaliser cette énergie par étant des maniaques du process.
Okay.
Les choses sont extrêmement carrées, extrêmement formalisées, extrêmement définies. Tu vois, un exemple, le process d'onboarding, il est réglé sur les premiers mois, en fait, jour par jour. Qu'est-ce qui doit se passer, en fait, quand une personne nous rejoint?
Okay.
Le process de recrutement, il est extrêmement cadré, en fonction du type de profil, le nombre de tours d'entretien, les études de cas qui doivent être faites, les tests qui doivent être passés, le type de personne qu'elle doit rencontrer. Les choses sont extrêmement processées pour que ce soit pas le bordel, en fait. Parce que l'énergie est un facteur de bordel et d'entropie. Et on a besoin d'avoir d'essayer de contrebalancer ça par étant des maniaques du process. Donc, je passe mon temps aussi à mes associés à définir ces process. Et après, et puis un peu de rencontres avec nos partenaires, que ce soit nos partenaires financiers, nos partenaires commerciaux, nos partenaires industriels, mon rôle a pas mal évolué, quoi. Ah, mes associés, je posais la question comment on faisait les choses. Donc moi, je suis de chaîne de valeur, un peu de financement. Bastien s'occupe des sujets d'ingénierie, donc pilote équipe qui conçoit les usines, et il s'occupe également des sujets de financement bancaire et de l'ensemble des sujets de financement. Et moi, j'aide uniquement sur les sujets de financement haut de bilan.
Okay.
Et Aude s'occupe des sujets d'opération. Pas mal d'activités de R&D, les activités de production et les activités de performance industrielle, donc les équipes qui soutiennent la production dans l'analyse de données, etc.
Ok, très clair, merci beaucoup. C'est quoi du coup votre ambition aujourd'hui et, enfin, jusqu'où tu vas? Quand est-ce que tu t'arrêtes?
Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, on ne sait pas trop. Hein. Concrètement... le marché de la nutrition animale, c'est un marché de nutrition animale et végétale, c'est 1000 milliards de dollars. Le marché de l'aquaculture, c'est 120 millions de tonnes. Notre protéine d'insectes, elle est pertinente sur une fraction de ce marché qui est l'ordre de 35 millions de tonnes. L'usine qu'on construit, là, la plus grosse usine du monde, ça va être 15 000 tonnes lorsqu'on l'aura poussé au maximum. Donc 15 000 tonnes par rapport à 35 millions, tu te rends compte que tu as quand même... quelques usines supplémentaires à réaliser. T'as un nombre de produits incroyables à développer. On est clairement qu'au début de l'aventure, c'est une aventure industrielle. Hein. Donc, faut mettre en place les bons partenariats avec les acteurs en amont et en aval. Protéger notre indépendance. Et on pense qu'on peut, que d'ici 10 ans, on peut produire environ 500 000 tonnes de protéines. Un énorme déploiement par rapport à notre site actuel, mais encore une petite fraction en fait du marché adressable. On veut avoir développé de nouvelles activités, réaliser 30% de notre chiffre d'affaires sur des activités qui n'est pas la commercialisation de protéines, de l'huile ou d'engrais organiques. On commence à avoir des revenus sur ce type d'activité également, des activités complémentaires. Notamment en fait en valorisant notre technologie. Je pense qu'aussi un niveau d'ambition, c'est essayer de construire une organisation humaine qui soit assez emblématique d'entreprise à impact, bien formaliser nos valeurs, construire une organisation humaine dans laquelle les gens s'épanouissent, progressent, développent, et qu'on soit reconnu en fait en tant que tel, quoi. Parce qu'il y a certaines entreprises qui sont reconnues pour faire bouger les lignes dans la façon dont ils incorporent les notions d'impact, dont ils gèrent en fait les personnes qui font partie de l'organisation. Et il y a une forme d'ambition aussi à pouvoir devenir une entreprise iconique dans ce mouvement également, qui sert nos ambitions business et qui se nourrit nos ambitions business aussi.
Écoute, j'ai presque d'autres questions, mais je préfère presque terminer sur ce mot parce que je trouve ça assez beau et assez noble. Écoute, je vais pas te prendre plus de temps, Clément. Merci beaucoup pour ton témoignage et pour toutes ces belles histoires sur InnovaFeed. Est-ce qu'on peut te contacter si on a des questions?
Absolument, ouais.
Voilà, bah, du coup, absolument, par LinkedIn.
Par LinkedIn, c'est très bien. Ouais.
Par LinkedIn, c'est,
par
très,
LinkedIn,
bien.
C'est très bien.
D'accord. Bah, je suis sûr que s'il y a des jeunes entrepreneurs qui t'écoutent et qui sont inspirés par ta démarche ou qui veulent en savoir plus sur les insectes, ils te contacteront via LinkedIn. Vous pouvez aussi évidemment me contacter, m'ajouter sur LinkedIn, David Baruchel. Et merci beaucoup encore une fois pour ton témoignage et à bientôt sur d'autres épisodes de La Galère.
Salut David, merci d'avoir pris le temps.
Salut, ciao. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Merci de le partager autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un joli commentaire. Ça va énormément nous aider à faire connaître le podcast. Aussi, si vous avez des besoins en accompagnement sur vos projets innovants, n'hésitez pas à contacter Start the Fuck Up, on saura s'occuper de vous. Il suffit de nous écrire sur contact@stfu.pro. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à très bientôt.